Impact, un roman de Éric Simon. Chapitre 19. 14 octobre 2025. Il restait encore quelques Skylink dans le ciel, mais c'était une question de jours avant que la constellation Miskienne soit définitivement disparue à jamais. Ce jour marquait surtout la disparition d'un important satellite d'observation de la Terre. Metsat venait d'être détruit, comme beaucoup d'autres, évoluant à moins de 700 km d'altitude. Ce satellite unique en son genre avait été lancé en 2024 pour cartographier à très haute résolution les quantités de méthane qui étaient émises dans l'atmosphère par les installations d'extraction de gaz et de pétrole partout dans le monde. En moins d'un an, il avait déjà permis de récolter de nombreuses données sur les installations industrielles responsables des principales émissions de méthane aux États-Unis. Les images qu'il avait produites révélaient que non seulement les gros puits de pétrole et de gaz produisaient de gigantesques fuites, mais c'était aussi le cas de la multitude de petits puits qui avaient été creusés dans le sous-sol états-unien depuis une vingtaine d'années pour fracturer la roche de schiste et libérer le gaz du même nom. Cette récupération se révélait désastreuse, puisqu'une fraction de plusieurs pourcents se retrouvait directement dans l'atmosphère. La puissance de l'effet de serre produit par le méthane était plusieurs dizaines de fois supérieure à celle du dioxyde de carbone. Jusqu'à la publication des cartes de Metsat, l'ampleur de cette injection de méthane fossile dans l'atmosphère avait été ignorée par les climatologues, la totalité du méthane injecté étant attribuée soit à l'agriculture, via la production naturelle du bétail, ou soit au dégel du permafrost sibérien et canadien. Metsat n'était pas le dernier satellite scientifique d'observation en orbite. Il y en avait un certain nombre sur des orbites élevées, voire en orbite géostationnaire. Mais les deux satellites européens Sentinel 1 A et B avaient déjà subi le même sort funeste que Metsat quelques jours plus tôt. Depuis une quinzaine d'années, l'Europe avait produit un gros effort pour l'observation de la Terre et de son climat, avec ses différentes familles de satellites d'observation qui avaient été conçus pour remplacer le gros Envisat. Il y avait d'abord eu les Sentinel 1 A et B, qui produisaient des images en tout temps, et même de nuit, qui avaient été utilisées pour le suivi des banquises et de l'environnement arctique, et pour la cartographie des forêts, ainsi que des ressources en eau et des sols. Ils se trouvaient à 693 km d'altitude, et n'étaient aujourd'hui plus que deux nuages de dizaines de débris. Puis s'étaient ajoutés les Sentinel 2 A et B, positionnés à 786 km d'altitude et qui produisaient une imagerie optique à haute résolution pour l'observation des sols, de la végétation et plus spécifiquement des fleuves et des zones côtières. Depuis la fragmentation des deux premiers sentinelles, les ingénieurs et les chercheurs n'avaient plus d'espoir de pouvoir les exploiter encore longtemps. Ils s'attendaient à leur fragmentation d'un jour à l'autre. Les sentinelles 3 A et B étaient des satellites océanographiques très similaires aux satellites chinois OceanSat. Ils mesuraient en particulier des grandeurs caractérisant les processus dynamiques des océans, la hauteur des vagues, la vitesse des vents, la température de l'eau et sa couleur, reflet du processus de photosynthèse. Ils naviguaient beaucoup plus haut que le satellite chinois, à 814 km d'altitude. Ils étaient encore intacts, mais jusqu'à quand ? Sentinel 4 n'était pas un satellite à proprement parler, c'était une suite d'instruments embarqués comme charge utile sur les satellites météorologiques géostationnaires Meteosat de troisième génération. La suite Sentinel 4 fournissait des données sur la composition de l'atmosphère en mesurant les concentrations de gaz à l'état de trace et des aérosols présents à l'échelle globale. L'orbite géostationnaire les protégeait de la fragmentation en chaîne, mais leur durée de vie théorique n'était que de 8 ans, et ils ne pourraient jamais être remplacés au terme de leur mission. Sentinel 5A venait de rejoindre l'orbite, lui aussi à bord d'un satellite météorologique, polaire, qui était nommé METHOP, au début de l'année 2025. Il fournissait également des données sur la composition de l'atmosphère à basse résolution. Il évoluait à la même altitude que les Sentinel 3, à 817 km. Avec une durée de vie de la mission qui était de seulement 7 ans. Les espoirs étaient les mêmes que ceux pour Sentinel-3. Ils étaient maigres. Et puis, Sentinel-6A faisait de l'altimétrie océanographique depuis une orbite de 1336 km sur une inclinaison de 66 degrés. Un deuxième Sentinel-6 aurait dû être lancé en 2026, mais resterait désormais stocké indéfiniment dans son hangar. Tous les satellites scientifiques d'observation de la Terre n'étaient pas exposés de la même manière à la ceinture de débris en formation. Mais ceux qui étaient épargnés ne bénéficiaient que d'un délai de grâce. Ils finiraient par arriver en fin de vie moins de 10 ans plus tard et ne pourraient jamais être remplacés du fait de l'inaccessibilité à l'orbite pour les lanceurs. Sans satellite d'observation directe, l'humanité serait désormais aveugle vis-à-vis des preuves irréfutables que ces satellites pouvaient apporter sur le bouleversement anthropique en cours. Les producteurs de gaz et de pétrole devaient probablement se réjouir de la catastrophe orbitale qui leur offrait un répit inattendu pour aller pomper jusqu'à la dernière goutte d'or noir sans être inquiétés. Plus de preuves, plus de coupables. Plusieurs spécimens des troupeaux d'éléphants du désert de Namibie étaient suivis par satellite depuis de très nombreuses années. D'abord grâce à des balises Argos, miniatures, puis à des émetteurs GPS qui leur avaient été attachés sur une cuisse. Pour de nombreuses espèces qui étaient menacées par les activités humaines, les déplacements des individus ou des groupes d'individus étaient très importants à tracer afin de comprendre comment évoluaient les populations globales. Ces suivis étaient effectués sur de nombreuses espèces animales, allant de certains oiseaux migrateurs jusqu'à des chauves-souris, en passant par des gros pachydermes. Les éléphants du désert qui vivaient dans le nord-ouest de la Namibie, à quelques centaines de kilomètres des télescopes de S2, étaient une sous-population spécifique qui avait trouvé refuge dans des zones plus désertiques que l'habitat de la plupart des éléphants de brousse. La région de Kunene était une zone composée principalement de déserts de sable, de montagnes rocheuses et de plaines pierreuses. Les éléphants y étaient au nombre de 3000 au début du XXe siècle. Dès les années 80, leur nombre avait été divisé par 100. Mais des mesures de conservation avaient été mises en place et leur nombre était remonté à 600 en 2013. Les scientifiques, qui avaient équipé quelques femelles de balises du système Argos, avaient pu montrer que grâce à de bonnes pluies en 1995-96, les éléphants avaient étendu leur aire de répartition vers le sud, jusqu'à la rivière Ougab. Un éléphant mâle adulte, solitaire, avait même été enregistré voyageant entre le parc national de Skeleton Coast et le parc national d'Etosha en quelques mois. Les groupes familiaux, qui se composaient généralement d'une femelle éléphant et de sa progéniture, ou de deux sœurs et de leurs petits, avaient tendance à rester près des rivières éphémères où il y avait une plus grande disponibilité de nourriture. Un seul groupe restait en permanence près de la rivière Oanib, tandis que d'autres groupes se déplaçaient sur une distance d'environ 70 km. Ils se déplaçaient généralement en une seule nuit, lorsque la température était plus fraîche. Les trois satellites en orbite polaire du système Argos, qu'avaient conçus ensemble la NASA, le CNES et la NOAA, étaient déjà hors service, et les GPS étaient en sursis de quelques années, reposant sur des satellites à l'abri des collisions, mais bientôt irremplaçables. Les populations d'éléphants du désert ne pourraient plus être suivies en temps réel, de même que les populations de manchots empereurs, de faucons, de phoques ou celles de baleines grises. Le suivi des populations animales par satellite, ainsi que l'évolution de leurs habitats vis-à-vis de l'artificialisation des sols, fournissaient des données précieuses aux membres de l'UICN pour mettre à jour leur liste des espèces menacées, en danger d'extinction ou en danger critique d'extinction. Ce ne serait bientôt plus possible. L'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, était beaucoup plus ancienne que le GIEC. Elle avait été créée en 1948, rassemblant de nombreux gouvernements et la société civile dans l'objectif d'encourager la coopération internationale et de fournir des connaissances et des outils scientifiques pour guider la conservation de la diversité du vivant sur Terre. Dès les années 60, l'UICN avait consacré ses travaux à la protection des espèces et de leurs habitats. En 1964, l'UICN avait établi la première liste rouge des espèces menacées, qui était depuis devenue la source de données la plus complète au monde sur le risque d'extinction globale. En 1980, l'UICN, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Fonds mondial pour la nature avaient publié la Stratégie mondiale de la conservation, qui avait contribué à définir le concept de développement durable. Une nouvelle version de la stratégie, intitulée « Prendre soin de la Terre », avait été publiée par les trois organisations à l'approche du sommet de la Terre en 1992. Elle avait servi de base à la politique environnementale internationale et avait guidé la création des conventions de Rio sur la biodiversité, du GIEC et de la Convention sur la désertification. En 1999, alors que les questions environnementales continuaient de gagner en importance sur la scène internationale, l'Assemblée générale des Nations unies avait accordé à l'UICN le statut d'observateur officiel. En 2025, avec 1400 organisations membres et plus de 16 000 experts internationaux, l'UICN était le réseau environnemental le plus vaste et le plus diversifié au monde. C'était en 2021, suite au déclin de la population sur plusieurs décennies, en raison du braconnage intensif pour l'ivoire et de la perte de son habitat, que l'éléphant de forêt d'Afrique, l'Oxodonta cyclotis, avait été répertorié comme un danger critique d'extinction, et que l'éléphant de savane d'Afrique, l'Oxodonta africana, avait lui été classé comme étant en voie de disparition dans la liste rouge de l'UICN des espèces menacées. Avant cette mise à jour, les éléphants d'Afrique étaient traités comme une seule espèce qui était classée comme vulnérable. Le nombre d'éléphants de forêt d'Afrique avait diminué de plus de 86% sur une période de seulement 31 ans, tandis que la population d'éléphants de savane avait diminué d'au moins 60% au cours des 50 dernières années, selon les évaluations. Les deux espèces avaient subi un fort déclin depuis 2008 en raison d'une augmentation significative du braconnage qui avait culminé en 2011, mais continuait de menacer les populations. La conversion continue de leurs habitats, principalement à des fins agricoles et pour d'autres utilisations des terres, comme la construction de routes, constituait une autre menace importante. Le rapport de l'UICN sur la situation de l'éléphant d'Afrique fournissait une estimation fiable de la population continentale des deux espèces combinées. Elle donnait le chiffre d'environ 415 000 individus. Malgré la tendance globale au déclin des deux espèces d'éléphants d'Afrique, les évaluations mettaient également en évidence l'impact des efforts de conservation qui avaient réussi. Les mesures anti-braconnage sur le terrain, associées à une législation plus favorable et à un aménagement du territoire visant à favoriser la coexistence entre l'homme et la faune, comme en Namibie, au Congo et au Gabon, avaient été essentielles au succès de la conservation des éléphants. Les éléphants de forêt étaient surtout présents dans les forêts tropicales d'Afrique centrale et dans divers habitats d'Afrique de l'Ouest. Ils chevauchaient rarement l'aire de répartition de l'éléphant de savane, qui se trouvait dans divers habitats d'Afrique subsaharienne, notamment les prairies et les déserts. On estimait que l'éléphant de forêt, dont la répartition naturelle était plus restreinte, n'occupait aujourd'hui plus qu'un quart de son aire de répartition historique. Certaines sous-populations d'éléphants parvenaient à prospérer, là où l'homme ne construisait rien. L'artificialisation des sols, des forêts et de la savane était suivie par les spécialistes grâce à l'imagerie satellitaire. Elle permettait de prévoir l'impact des activités humaines à moyen terme sur les populations d'animaux. Un autre impact indirect de la disparition annoncée des satellites d'observation et à terme des satellites GPS allait toucher la ressource halieutique des océans. Une très grande majorité des bateaux de pêche, le plus souvent originaires du sud-est asiatique, naviguaient dans les eaux internationales et parfois dans les eaux des zones exclusives, sans s'identifier dans le système AIS en activant leur géolocalisation. Ils échappaient ainsi facilement au contrôle des États. Il y avait des bateaux de toute taille, depuis de véritables bateaux-usines jusqu'à de frêles embarcations. Ils vidaient les océans de leur vie animale sans vergogne. L'AIS, le système d'identification automatique, permettait de recevoir et de transmettre la position des navires. À l'origine, c'était un système de sécurité qui utilisait le GPS et la VHF. Le GPS fournissait la position du bateau et un canal dédié de la VHF la transmettait à toutes les stations pouvant la capter aux alentours. Les données AIS donnaient des renseignements à trois niveaux. Les données dynamiques, position, vitesse, cap. Les données statiques, nom du bateau, son numéro MMSI et ses caractéristiques. Et enfin, les données du voyage, cargaison, destination. Depuis le 31 mai 2014, l'ensemble des navires de plus de 15 mètres de longueur de l'Union européenne devaient être équipés de l'AIS de classe A, dont la portée était généralement de 20 à 25 000. Aux États-Unis, depuis le 1er mars 2016, tous les navires américains de pêche de plus de 65 pieds de longueur devaient en faire de même. Mais aucune directive n'imposait cette contrainte sur la flotte chinoise. Les satellites d'observation étaient utilisés pour localiser les plus gros bateaux. Seuls ceux de plus de 20 mètres pouvaient être repérés. On ne pouvait bien sûr pas déterminer s'il s'agissait bien de chalutiers, et encore moins s'ils utilisaient des chaluts à filets dérivants qui ramassaient tout sur leur passage. Mais leur présence dans les zones poissonneuses ne laissait que peu de doutes sur leur nature. Si un tel bateau était repéré sans qu'aucune localisation officielle ne soit confirmée à cette position, il s'agissait d'un bateau hors la loi pratiquant la pêche illégale. Ils étaient très nombreux. Le nombre de bateaux de pêche qui ne s'identifiaient pas auprès de l'Organisation maritime internationale était estimé à 75%. La disparition des satellites d'observation allait probablement faire exploser l'activité de braconnage halieutique, avec des bateaux usines de plus en plus gros qui ne pourraient plus jamais être repérés une fois quittés leur port d'attache. Et une fois que les derniers satellites de positionnement global auraient rendu l'âme, le système AIS ne fonctionnerait tout simplement plus et plus aucune localisation ne serait possible sur l'ensemble des océans, laissant la porte grande ouverte à tous les braconniers des mers qui n'auraient même plus besoin de se cacher.